Les conférences des sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes, c'est avec les Rendez-vous des Beaux-Arts. Retrouvez tout le programme sur www.essa.fr.
Bon, et ben, bonsoir. Je m'excuse par avance parce que je suis un petit peu enrhumé venant du sud de la France. C'est une région pluvieuse. Je remercie déjà Reynald de m'avoir invité. En fait, on s'est rencontrés pour l'historique avec Reynald aux Beaux-Arts de Paris fin année 90. Ça doit faire pas mal d'années, 20 plus. Voilà, et à l'époque, c'était les prémices en fait d'Internet, et on était tout le temps fourrés en base infographie. Et c'est là où il y avait les premiers modems, et nous on a plongé littéralement dans cette pratique. J'en parle parce que ça se répercute encore dans mon travail aujourd'hui, actuellement. Voilà, je vous montrerai des exemples concrets par la suite. Qu'est-ce que je peux évoquer? Écoutez, je suis plasticien de longue date, mais aussi éditeur. J'ai été membre fondateur de la galerie Glassbox à Paris, qui était le premier Artist Run Spaces en France, inspiré du modèle anglais. Artist Run Spaces, c'est une galerie qui est gérée par des artistes qui sont aussi commissaires, en fait. Mon travail d'éditeur est axé principalement autour du label que je dirige depuis 97 qui s'appelle Optical Sound. Et j'ai tendance à dire à chaque fois que le nom Optical Sound est emprunté à la piste sonore qu'on voit visuellement sur les pellicules de films 16 ou 32 mm. Et c'est aussi un nom assez évocateur sur ce que peuvent générer une écoute d'une pièce sonore comme cinéma mental. Je cite à cet effet le cinéma pour l'oreille, qui est une collection de disques chez Metemkin à Grenoble. Alors de manière récente, enfin ça fait 5 ans, j'édite une revue aussi avec des amis graphistes et artistes qui s'appelle la revue Optical Sound, qui est une revue à parution annuelle. Qui est vraiment axé musique et art contemporain, qui sont mes deux chevaux de bataille, si on veut, parce que je suis venu aux arts plastiques par la musique. Alors, en introduction de conférence, je cite toujours, pour remettre les choses à plat, que cette envie de faire se côtoyer et la musique et les arts plastiques m'est venue en voyant des pochettes de disques. La fameuse pochette du Velvet Underground par Warhol, enfin pochette, il y en a eu plusieurs, ou celle faite par Mike Kelly pour Sonic Youth, et etc., etc. C'est un petit peu ce que je fais aussi dans le cadre du label actuellement. Je vais vous montrer quelques pièces par ordre chronologique. Ça vous permettra de situer un petit peu ma pratique. Qui tourne donc autour de l'histoire de la musique principalement, sachant que je ne suis pas musicien. Voilà. Je confie le travail de bandes sonores quand elles sont nécessaires dans les installations à des musiciens du label. Donc une des premières pièces entre guillemets maîtresse s'appelait justement Optical Sound, et celle que j'avais présentée pour mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris en 99. Hop, voilà. Et donc elle est constituée de 7 tourne-disques. Plutôt des tourne-disques pour enfants, un petit peu désuets, et d'une série d'enceintes connectées à ces tourne-disques. Sur chaque tourne-disque, j'avais mis en fait des 45 tours de variété française. C'est quelque chose que j'aime pas spécialement, la variété française, donc je voulais créer une autre texture sonore, et mon idée avait été de rayer avec un coup de cutter chaque 45 tours, ce qui a eu pour effet de produire une boucle sonore tout à fait différente du 45 tours d'origine, que ce soit Sylvie Vartan ou je sais pas, des choses comme ça, Alain Souchon. Et sur une des 7 platines, tournait pour le coup en continu un disque qui s'appelle Programme Radio. Programme Radio, c'est la toute première édition du label donc de Optical Sound, sous la référence OS.00, qui a été composée avec Régnier Le Ricollet et Christelle Brunet. On a des petites simulations audio de ce que cette installation peut donner. C'est bien sûr une référence au collage, au sens large du collage, au sampling, à ce type de choses. Je vais vous faire écouter. Je précise aussi que le côté répétitif des boucles sonores est cassé par le biais d'un programmateur électrique, enfin alternateur électrique qui envoie du courant de manière aléatoire sur les platines. Hein. C'est une installation qui est assez empirique. Hein. Alors parfois dans mes installations, donc il y a des bandes sonores qui sont diffusées, mais pas forcément. J'aime bien que les installs soient muettes aussi. Je me revendique pas comme plasticien sonore. Et je trouve que les installations qui dégagent tout le temps du son peuvent être assez gênantes parfois. Donc, il y en a une qui s'appelle Tape Wall que j'ai réalisée en 2003, qui est constituée de 23 cassettes audio translucides et vierges, contrecollées sur un mur de manière très simple. Et les bandes sont étirées sur 23 cm. Alors, j'en parlais cet après-midi, il y a souvent ce chiffre 23 qui revient dans mon travail, hein, qui est tout simplement une référence à des auteurs que j'aime beaucoup, qui s'appellent Brian Gaisin ou William Burroughs, hein, qui ont joué tout au long de leur vie avec ce chiffre 23 qui a des références symboliques diverses et variées, mais ça reste un jeu avant tout. Voilà. Donc ça, c'est une installation qui doit être détruite à chaque fois qu'elle est montrée, puisque une fois que les cassettes sont contrecollées sur mur, avec de la colle à chaud, on doit casser l'installation. Voilà. Euh dans le même ressort, ça c'est une installation qui s'appelait I'll Be Your Mirror, qui est une référence à la Factory d'Andy Warhol, mais une espèce de Factory inversée. C'était dans le cadre du festival Ososphère à Strasbourg, dont je m'occupe chaque année pour la partie programmation art plastique. Et tout un bâtiment en fait était recouvert de papier aluminium, comme une grosse tablette de chocolat. Toujours sur Strasbourg, là c'était plus dans le cadre d'une performance qui s'appelait Star Crash, dans le parking du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. J'avais en fait contacté un club de collectionneurs de voitures anciennes, en l'occurrence des Austin Healey, et le public était placé au fond du parking, vide, et attendait l'arrivée de ces voitures, sans le savoir d'ailleurs. Et les voitures arrivaient dans un crissement de pneus assez important, ça résonne pas mal dans les parkings, se disposent en forme d'étoile, coupent le moteur et allument leur autoradio. Et pour cette performance, j'avais demandé à des artistes du label comme Black Sea Fishy ou Christophe Demarthe de composer une bande-son destinée à être diffusée dans le cadre de cette performance. On avait aussi une lecture performance. Voilà. Peut-être mettre un petit extrait. Ouais, ici.
There is a 3-second delay.
C'est la voix de Black Sea Fishy avec qui je bosse pas mal depuis le début du
radio show. Everything you're listening to has not been recorded in real time. Real time no longer exists because we are in the museum of modern art. This is a contemporary recording of sound recorded before you heard it, but coming into your ears at a time that seems very much like now. There is feedback, we know that. This is not a problem. Optical sound, Pierre Belois.
Alors l'idée de cette transmission en fait, ou diffusion par le biais d'ondes radio dans des autoradios de voiture m'était venue suite à une histoire de Technival dont j'avais entendu parler, où des teufeurs se réunissaient par exemple au bord d'une falaise avec différents types de radios portables à piles, hein, et se calaient sur une fréquence qui diffusait justement un programme assez rythmé. Et par la multiplicité de ces postes de radio, on pouvait improviser une diffusion sonore dans n'importe quel lieu, en plein air, dans un parking, un supermarché, etc., etc. Voilà. Sauf que là, il y a un peu plus une mise en scène années 50. Moi, je dois quand même vous montrer cette pièce qui s'appelle L'Homme Orchestre, en fait, qui est pareil, qui traite d'une histoire de la musique, là en l'occurrence le courant surf exotica. Et il s'agit de personnages reproduits à échelle humaine, d'autoportraits. Donc moi-même grimé en musicien, sachant que je ne suis pas musicien. Et ces personnages sont disposés sur une scène, avec des éclairages. Il y a une bande son qui tourne en continu, qui a été réalisé par un ami de Nantes. Là, j'en ai parlé aussi cet après-midi, et pour moi, c'est une manière de montrer que la musique actuellement, ou en tout cas depuis l'avènement de la Star Academy ou ce genre d'émission, elle peut être reproductible en série. On peut cloner des personnages, des musiciens, comme on fabriquerait des boîtes de soupe ou de fromage. Je vais vous faire écouter un extrait. L'extrait donc correspond à la première version de la pièce, qui était un duo en fait, qui était plus courant, années 80. Donc je vous fais écouter l'extrait de L'Homme Orchestre, années 60, qui est sur la page d'avant.
Voilà.
Et c'est une installation qui a donné lieu aussi à une édition vinyle sous la forme d'un picture disc qu'on voit ici. Parce que souvent dans le cadre de mes travaux, j'aime bien qu'il y ait une édition parallèle qui est présentée et disponible lors de l'exposition, mais aussi après, avec sa diffusion propre et hors du temps figé de la monstration ou de l'expo. Je vais montrer rapidement une pièce qui avait été présentée ici pour l'ouverture du Bon Accueil à Rennes en 2006, qui est une pièce de résidence que j'avais effectuée au Québec en 2006. Et en fait, ce sont ce qu'on a appelé par la suite des photographies sonores. Parce que moi, je m'intéressais beaucoup à une image fixe avec une bande-son mouvante. Notion de cinéma pour l'oreille, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Donc il s'agit de 8 photographies, des tirages assez grands, des photographies prises au Québec, en pleine forêt ou en milieu urbain. Et j'avais demandé toujours à des musiciens du label avec qui j'ai des affinités, avec qui je collabore, de composer une bande-son. Une fois qu'ils avaient choisi une des 8 photos, bande son destinée à être écoutée au casque, donc dans un milieu fermé, relativement clos, en vis-à-vis de la photo choisie. Je vais vous faire écouter un petit extrait. C'était sur l'atelier de création radiophonique quand ça existait encore sur France Culture. Je pense que j'ai ouvert la page tout à l'heure, ouais.
On reprend sa respiration et les esprits qui vont avec. On ouvre grand les oreilles pour atteindre la phase B de l'atelier avec ce soir Awan, Sigwawini Spenki, 5 photographies sonores par Pierre Belouin. Dans le cadre du programme Résidence croisée Alsace-France, Lac-Saint-Jean-Québec, Pierre Belouin a présenté à Langage Plus l'exposition Awan Sigawini Spenki, qui signifie en Abénaki air, au printemps, paradis. 8 photographies couleurs de paysage sont accompagnées d'un paysage sonore que l'artiste a prélevé sur chaque lieu photographié au Québec. Les enregistrements ont été transmis avec l'image correspondante par Internet à des plasticiens sonores français. Nous présentons ce soir 5 bandes originales composées par Régnier Le Ricollet, Eddy Ladoire, Norsk et White Shores.
Bon, je vais pas vous faire écouter tout ça va être un peu long sinon pour scanner le reste des travaux. D'ailleurs éteindre. Hop. Ça c'est peut-être. Ouais, je vais vous montrer une autre pièce qui s'appelle la Dream Machine Room que j'avais présentée à Marseille dans le cadre du festival Artorama et qui a été produite par Mécènes du Sud et eux en fait demandaient à des artistes de réaliser des pièces destinées à être montrées de manière permanente dans des chambres d'hôtel. Je sais pas si vous connaissez le principe de la Dream Machine qui a été inventé dans les années 50 par Brian Gysin dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est une machine cinétique qui tourne à une certaine fréquence de rotation qui a pour effet de produire des effets stroboscopiques. Et c'est la première machine de l'histoire de l'art qui se regarde les yeux fermés et qui permet d'avoir des peintures en continuelle évolution sur la rétine. En fait, c'est un peu comme quand on est gamin, quand on regarde le soleil les yeux fermés et qu'on a une persistance colorée rétinienne fixe. Sauf que là, c'est en mouvement. Kurt Cobain l'aurait utilisé et ça l'aurait conduit au suicide, entre autres. Et Brian Gysin, au départ, voulait que les gens s'affranchissent des téléviseurs classiques en utilisant la Dream Machine, en créant leur propre programme mental, intérieur et visuel. sans diktat extérieur. Donc moi, ça me paraissait cohérent de le proposer dans une chambre d'hôtel, puisque dans les chambres d'hôtel, dans les fiches techniques, il y a toujours une obligation d'avoir un téléviseur. Ça fait partie des prérogatives. Hein. Voilà. Et pour cette Dream Machine, j'avais commandé à des amis musiciens et artistes visuels qui s'appellent les Servo Valve une bande son aléatoire et infinie. Donc on est vraiment sur ce principe ouvert de liberté et sans contrôle particulier. Voilà. Alors ça, c'est une installation qui avait été montrée dans le Project Room chez Agnès B, qui s'appelle Paint in Black. C'était un petit peu une manière de mettre en lumière la fin de la vente du disque ou des multiples. Donc toutes les éditions étaient absolument peintes en noir, en fait. On avait édité des posters, des cartes de visite. Tout était noir et accompagné d'une bande son à écouter au casque, qui était une superposition de toutes les reprises de ce morceau, donc des Rolling Stones, Paint in Black, en couches accumulées jusqu'à arriver à une totale saturation. C'était une exposition collective qui s'appelait Musique Plastique, en fait. Alors ça, c'est une expo qui s'appelle Vague Froide, et Vague Froide, c'est la traduction littérale en français de Cold Wave. Une expo que j'ai fait avec Nicolas Ledoux, avec qui je travaille pas mal sur le label et avec qui je fais cette revue Optical Sound de musique art contemporain. Moi, j'avais un peu des réticences par rapport au groupe qui s'appelle Nouvelle Vague, je trouve édulcorer un petit peu une partie de la musique qui m'a beaucoup influencé, en faisant des reprises salsa de Joy Division ou ce type de choses. Donc on avait traduit Vague Froide, Cold Wave. Et elle tourne autour de la récupération aussi de toute cette scène ou toute cette période. Donc c'était au crack de Caen, qui s'appelait le Wharf, qui a fermé l'année dernière, je crois. L'espace était tout en colimaçon, assez long. Là, cette image, c'est une image assez récurrente qu'on utilise quand on travaille en binôme avec Nicolas. C'est une photographie d'un artiste et musicien qui s'appelle Jérôme Pourré, qui pose devant une pièce de McCarthy. Donc un ours devant un autre ours. L'appareil, c'est un pochoir qu'on utilise régulièrement. Nous étions déjà morts dans les années 80, qui est extrait d'une interview de Clair Obscur, hein, mais c'est Nicolas Ledoux qui prenait l'identité du chanteur de Clair Obscur et qui a répondu à sa place. Donc c'est un pochoir mural, hein, d'assez grande dimension. Là, nous avons deux couronnes mortuaires qui portent nos prénoms, puisque Nicolas Ledoux, son prénom complet, c'est Pierre Nicolas Ledoux, et moi c'est Pierre. Couronne en noir, déjà prête pour nos enterrements respectifs, assez belle. Là, on avait proposé un papier peint, en fait, qui est toujours téléchargeable gratuitement et qu'on peut imprimer pour mettre dans sa chambre, qui est constitué uniquement des pochettes de disques de ces groupes New Wave ou Cold Wave, mais français. On était uniquement sur l'axe français. C'est vrai que Rennes a été assez puissant à cette époque-là, avec des groupes comme Marquis de Sade, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'historique. Ici, on a des petites figurines, hein, autoportraits. Là, ce qu'on voit au fond, c'est une installation, une pièce que j'avais appelée bas-relief. On va essayer de la voir plus bas. Un hommage à Claude Lévesque, en fait, qui est constitué uniquement d'un grillage, un très gros grillage, avec des rivets et des canettes de bière vides. On avait eu un partenariat avec Heineken qui avait eu la gentillesse de nous les donner vides. Pour moi, c'était une manière de faire une espèce de grande vague, justement, puisque l'expo tournait autour de la vague aussi, vague froide, une sinusoïde. C'est un bas-relief qui fait une dizaine de mètres à peu près, voire plus, avec parfois des renflements, des boursouflures quand il y a beaucoup de canettes. Voilà, on a une espèce d'onde sonore. Je l'ai présenté par la suite à Fordé à Genève pour le prix Ford. Là, ce sont de grands posters tramés, c'est plus une pièce à Nicolas. Bien que dans le cadre de cette expo, on n'identifie pas les pièces sous mon nom ou son nom. Toutes les pièces étaient signées de nous deux. Là, c'est plus un hommage à Klaus Oldenburg, hein, avec ses sacs cassettes qui sont un peu idiots, mais qui prennent part à cette idée de récupération. Hop. Là, on avait collecté une série de spams qu'on recevait à cette époque-là de la part de jeunes filles russes. Alors, ça s'appelait Vague de l'Est. Des jeunes filles russes qui étaient prêtes à venir cuisiner à domicile, qui avaient plein de compétences et de qualités. Et tout ça dans un français traduction Google hyper approximatif, mais très poétique au niveau des textes qu'on avait encadrés. Alors là, c'est une espèce de décor découpé, salon de réflexion. Et on avait fait donc une petite édition qui s'appelait Vague Froide en réseau. Là, c'était la dernière pièce de l'espace, puisque cet espace était tout en colimaçon, où on diffusait avec un effet de flanger et de delay des tubes des années 80, comme s'ils étaient un petit peu pleins de poussière, effacés et prêts à disparaître. Je vais peut-être passer à un projet plus récent, quitte à revenir sur cette page après, qui montre un petit peu plus mes travaux d'installation. Donc c'est un projet qu'on a créé en début janvier là, de 2016, qui s'appelle Acoustic Cameras. Et l'idée est d'inviter en fait des musiciens à annexer des webcams en ligne. Webcams donc qui sont disponibles 24 heures sur 24. Nous on détourne juste le flux, l'adresse URL de ces webcams qui peuvent se trouver partout dans le monde et donc sont disponibles sur le site en direct constamment. Donc les musiciens choisissent par rapport à leurs prérogatives ou le type de musique qu'ils ont tendance à composer une webcam au bord de mer ou dans un magasin ou à tel ou tel endroit géographique en Chine ou en Islande. Ça part toujours de ce sentiment, de cette notion de permettre aux spectateurs d'avoir cette liberté d'interprétation et puis cette notion de hasard en fait. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant directement. Donc là c'est Blaine Rillinger qui est connu pour jouer dans un groupe qui s'appelle Tuxedo Moon, qui existe toujours. Et lui a choisi un hôtel en Italie qui s'appelle le Sirenus Hotel. Parfois les webcams ne marchent pas, alors je vous promets rien, ils sont déconnectés. Là ça va. Okay. La bande son, elle, est figée dans le temps, elle fait entre 5 et 30 minutes. Hein. Les artistes font ce qu'ils veulent sur la durée. Par contre, la webcam, comme vous le comprenez, elle est branchée jour et nuit. Et on peut avoir un décalage d'interprétation selon ce qui s'y passe. Alors, je vais remontrer celle d'Eric Hem qu'on a vue cet après-midi, puisque là, en l'occurrence, à Saint-Étienne, sur la place de Saint-Étienne, il fait nuit à présent. Eric Hem est un, pour le coup, un plasticien sonore qui habite Marseille. Qui va présenter une pièce à musicale à Strasbourg cette année, en octobre. Moins bien que cet après-midi. Du coup, c'est intéressant d'y revenir, d'essayer de trouver des choses incongrues qui se passent. Hein. Parfois, on voit des gens passer. On va voir Christophe Bayot, peut-être que... Voilà. Ça, c'est un centre d'entraînement pour chiens, il n'y était pas cet après-midi. Le son est un peu dégueulasse, je pense qu'il y a un faux contact, donc je vais baisser pour que ça ressemble pas à du sonneau et qu'on puisse entendre un peu. Qui a été créé par Christophe Demarthe, Thierry Veit qui dirige les éditions Cactus à Caen. Et un de nos objectifs, c'est de le présenter dans des dispositifs qui sont assez légers, dans des galeries, centres d'art ou festivals, donc en live cette fois. C'est-à-dire que le musicien jouerait en direct devant la webcam qu'il a choisie. Une autre, mais n'hésitez pas à vous connecter partout sur le site. Ah, bah voilà, ok. Je pense que j'ai décablé un truc là. Non, très bien, attends. J'ai touché que le câble audio, donc c'est bizarre. Attends, on va voir. Ouais, c'est bon. Okay. C'est une piscine extérieure en Autriche. Chaude, hein, bien sûr. Thank you. quand je parlais de web art, en fait, avec tout à l'heure avec Reynald, on s'y était intéressé, on avait vite vu les limites, il y a eu pas mal de projets à l'époque, hein, mais c'est vite devenu une espèce de soufflet qui est retombé. Hein, et j'imaginais pas, des années après, trouver un principe aussi simple, mais qui fonctionne plutôt relativement bien, et surtout qui a jamais été fait à ma connaissance. Enfin, on n'a pas trouvé de choses similaires. Il y a eu bien sûr des projets de captation de webcam et de bande son, mais en différé, qui ont été capturés sur un instant T, mais webcam en direct et bande son comme ça, non. Donc le projet est très simple et très réactif et permet d'avoir plein de structures et de textures différentes et sonores et de choix de webcam. Là, c'est celle de Simon Fisher Turner, qui est un artiste anglais que j'ai édité sur le label à plusieurs reprises, qui est connu pour avoir travaillé avec Derek Jarman, qui est un cinéaste expérimental anglais. Étienne Chary, alors c'est une piscine, mais voilà. Là par exemple il n'y a rien. Ok. Je vous en montre une dernière et après on va passer à autre chose. C'est une laverie à Gennevilliers. Je crois qu'elle est ouverte 24 sur 24 en fait. Juste une petite dernière quand même. Bon, je la trouve pas, j'arrive. Je suis captivé par mon propre projet, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est là, ok. C'est un groupe uniquement vocal et ça a été enregistré à l'abbaye de Tournai dans le sud de la France. La webcam est en couleur en journée, en noir et blanc. Je vous inviterai à regarder tranquillement chez vous, si vous avez envie, bien sûr. Toujours sur ces histoires de dispositifs d'écoute, et toujours dans le cadre du Festival Ososphère, chaque année, je présente un projet qui s'appelle Écho Flottant. Il s'agit de concerts sur péniche, sur bateau-mouche. Et on détermine avec les artistes, les musiciens, par avance, le parcours qu'ils vont faire sur le Rhin, si le parcours va être diurne ou nocturne, si le bateau va s'arrêter, voilà. Et en fonction de ça, c'est réservé à une jauge de 40 personnes, c'est l'entrée libre sur réservation. Là, je vous montre un petit extrait de Robin Guffrey, qui est le guitariste du groupe Cocteau Twins. Ça, c'était en 2012. Cette idée de cinéma en mouvement, mais créé par le public lui-même, en tout cas avec une grande liberté. Et le bateau mouche fait cette espèce de cage de résonance, cage en verre, où on peut observer tout ce qui se passe quand même dehors. Les gens qui peuvent marcher sur les quais, les oiseaux qui passent, dans une espèce de bulle. De bulle sonore. Ou de rêve éveillé, si vous voulez. montre un autre extrait d'Écho flottant, parce que celui-là, le morceau est en entier, en fait. Je sens qu'il y a des gens qui s'endorment, ce qui est normal. Alors là, c'est Lionel Marchetti. Qui, pour le coup, lui avait fait une composition à l'aller et au retour, puisqu'il y a forcément un aller-retour avec le maître. Sur d'autres pièces. Celle-ci qui s'appelle simplement Solarisation. En fait, habitant dans le sud de la France, j'ai remarqué que sur les bords de route, sur les affiches publicitaires, à la fin de l'été, la quadrichromie était complètement brûlée par la force du soleil. Et souvent, on avait tendance à voir des affiches qui devenaient presque monochromes, ou en tout cas bleutées. Il n'y avait plus que les tons bleutés. Et partant de ce principe, je me suis dit que je pouvais reproduire le phénomène, tout simplement en mettant des pochoirs sur des masques, sur des affiches de mon choix, et en les laissant au soleil pendant un mois ou deux. Et donc, les ultraviolets finissent par ronger une partie de la couche imprimée. Et quand on enlève le pochoir, on a la manière, le côté évidé de la chose. Donc là, on avait récupéré des affiches au musée d'art moderne de la ville de Paris, Gilbert and George, ou celle-ci, et travaillé une typo. C'était pour une expo chez Galerie Magdadanis. Et ce principe m'intéressait parce qu'on parle souvent de en art moderne de Cézanne, etc., la lumière du sud et du soleil, bien sûr. C'était cohérent à l'époque, hein, sauf que on peut travailler avec d'autres médiums maintenant, mais ça part du même principe de ce soleil aveuglant et assez violent aussi. Voilà. Alors toujours dans les clichés, j'aime assez travailler sur les clichés, en fait, qui s'avèrent être vrais parfois. Là, c'était dans le cadre du Printemps des Arts à Marseille, hein, et à l'époque, il y avait pas mal de baltrapes, il y en a toujours, enfin, de d'armes, de règlement de compte. Donc c'est un lieu qu'on peut investir totalement qui s'appelle Diagonale 61. Et moi j'avais décidé de faire une armurerie tout simplement avec un côté pop, cold wave. C'est-à-dire que les cartouches d'encre était à échelle démesurée, cartouche de, j'ai dit d'encre, de chevrotine, je m'excuse. Et j'avais mis une enseigne armurerie. Et les gens qui passaient dans la rue se demandaient ce qui se passait justement dans cette rue en plein Marseille. Voilà. C'est une pièce qui est un peu plus ancienne de 2007 qui s'appelle Icosa Jack, qui a été faite avec Cocktail Designer, hein, qui est un groupe d'artistes et designers, qui est toujours actif, qui fait partie de la collection du Frac Paca, et elle est constituée de trois étoiles en forme d'icosaèdre, d'où le titre Icosa Jack, d'un bloc technique qui comprend un ordinateur qui en fait diffuse toutes les éditions du label depuis 97, donc je la mets à jour régulièrement. Et l'écoute se fait au casque. Sur le bloc technique, on a un petit écran LCD qui affiche le titre qui est en cours de lecture. C'est en fait une pièce que j'ai commandée à Cocktail Designer, puisqu'à l'époque il y avait une expo au Frac Nord-Pas-de-Calais et la directrice me demandait de présenter les éditions du label en écoute, et j'avais pas spécialement envie que ce soit sur une table avec un lecteur CD, un casque, et donc imaginer un dispositif me paraissait plus intéressant. On peut aussi brancher en fait une sono et un groupe derrière ce dispositif, et donc les concerts peuvent s'écouter au casque. Ce qui peut avoir un intérêt quand on présente la pièce dans un lieu qui normalement doit être silencieux, comme une bibliothèque, une église, etc., etc. Dans ce même cadre, pour présenter les éditions du label, ça c'est une pièce qui s'appelle The Circulating Library. Le titre est emprunté à un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Coil. Ce sont toutes les éditions du label, pareil, qui sont présentées au mur, comme une constellation, et reliées entre elles par des fils de différentes couleurs. Donc cette pièce peut se réactiver et être mise à jour régulièrement. Dès qu'il y a une nouvelle édition, je la ramène et je la mets au mur, en fait. Donc en l'occurrence, pour écouter les disques, il faudrait détruire la pièce. Donc je vous parlais de la revue tout à l'heure, Optical Sound. On en est au troisième numéro, sachant qu'il y a eu un numéro zéro et un hors-série. Et là, on avait fait une mini-exposition chez Agnès B. Où j'avais fait un pendule, en fait, avec des facsimilés d'œuvres. Hein, c'est-à-dire un faux Jeff Koons qu'on trouve chez Casa, un chien Jeff Koons. Un baril Brio de Warhol, mais qui en fait est une enseigne pour la marque PP Jeans. Et normalement, il y a une paire de tongs Joy Division, voilà, qui est ici. Voilà, qui est vraiment l'archétype du produit dérivé de la récupération. Alors les revues sont déjà à la médiathèque ici si vous voulez les consulter, puis j'ai laissé pas mal d'éditions DVD, disques aussi, puis d'autres catalogues. Souvent avec la revue, en fait, on sort un disque qui est lié au contenu de la revue. Parfois c'est une compilation, d'autres fois un disque d'un seul artiste ou d'un duo d'artistes. Donc, toutes les éditions sont sur le site du label optical-sound.com sous la forme de CD, DVD, vinyle. Tout ce qui est print, ce sont les catalogues et revues. On a aussi pas mal de sérigraphies, en fait, et de multiples. C'est une série que j'avais fait pour le Confort Moderne à Poitiers. L'expo a eu lieu en 2015, en fait, l'été dernier. J'avais reconstitué un tiki bar, en fait. C'est un univers que j'aime beaucoup, qui est à cheval entre la musique expérimentale et la musique un petit peu désuète des années 50 à la Martine Denis. Je crois qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Je vais vous montrer en fait le clip d'un artiste qui est édité sur le label depuis 2-3 ans, qui s'appelle Jean-Luc Verna, que vous connaissez peut-être. Alors pour le coup, c'est un groupe d'artistes, de plasticiens, mais qui sont aussi véritablement musiciens, qui est composé de Jean-Luc Verna, donc Galerie Art de Paris, mais aussi Julien Tibéry, qui est chez Galerie Semioz, et Gauthier Tassard, qui est vidéaste et enseignant à la Villa Arson. Donc ce picture disc en fait est vendu avec un petit code de téléchargement pour avoir une version digitale, mais aussi deux clips version HD. Et je vais vous en montrer un qui s'appelle Angry Lullaby. Merci.